Bonjour et bienvenue à Détour Estival avec Fulgence Blau au micro et Maurice Bolduc à la console. Voilà, on va démarrer cette émission avec notre chroniqueuse de nutrition Louise Thibault qui va nous parler des histoires de bouche. Et en deuxième partie, on va recevoir un jeune directeur artistique, Francis Chouanière, qui va nous parler de l'Orchestre Philharmonique. Restez à l'écoute. Avec Vive la fête et le titre de la pièce, c'est les marionnettes. On a notre chroniqueuse de nutrition qui est déjà au téléphone, la grande Louise Thibault, qui va nous parler des histoires de bouche. Elle va nous faire entrer dans l'univers fascinant de la bouche. Ce sont des chroniques. Ces chroniques sont inspirées d'ailleurs de ses livres publiés aux éditions de l'Homme. Bonjour Louise Thibault.
Bonjour Fulgence Blas.
Comment vas-tu Louise?
Très bien, en ce début d'août.
Oui.
Et oui, et puis on parle toujours de nutrition sensorielle.
Ah oui, oui, donc tu vas nous faire découvrir ces histoires de bouche.
Oui, oui, c'est ça, on entre dans la bouche. Oui. Je vais vous donner mes ordres un peu plus tard.
Ok, d'accord.
Mais avant, je vais vous parler de ce qu'on perçoit. Grâce à notre bouche,
oui.
On perçoit 5 goûts élémentaires. En fait, il y a 5 goûts que l'humain et l'animal aussi peut percevoir. Je suis certaine que vous avez une petite idée déjà de certains de ces goûts. Il y a d'abord le sucré.
Oui, la mer.
La mer, oui.
Puis quoi encore, le salé.
Ah ouais, le salé.
Et quoi encore? On a déjà 3, hein?
On a déjà 3, mais il en manque 2. Alors.
Le vinaigré.
Vinaigré, oui. L'aigre.
L'aigre, oui. L'aigre. Oui, oui. Et puis le cinquième, là, ça me manque.
Le cinquième, ça, c'est un peu plus embêtant. Alors, le cinquième, ça s'appelle.
Le piquant.
Non, le piquant, en fait, c'est une sensation tactile.
OK, d'accord.
Wow. Ah, alors, ça, ben, le cinquième, ben, il nous vient du Japon, imaginez-vous donc.
Oui.
Ce qui est de mise ces temps-ci, ça s'appelle l'umami.
L'umami.
Eh oui, et l'umami, c'est la contraction de deux mots. Le premier mot, c'est uma, qui veut dire délicieux.
Oui.
Et le second, c'est mi, qui veut dire goût. Autrement dit, l'umami, c'est le goût savoureux ou le goût délicieux.
OK, d'accord. OK.
Eh oui, et ça nous vient d'un chercheur japonais.
Mmh.
Ah. Et ben, c'est
tout. Sinon, vu sur le plan occidental, disons que c'était quatre, quoi.
Ah ben oui, ça fait quatre, mais on perçoit le goût savoureux.
Oui, oui.
Et c'est ça, et c'est grâce à, en fait, un acide qu'on appelle acide glutamique qui est présent dans certains aliments qui nous fait percevoir le savoureux, le goûteux.
OK, d'accord. OK.
Alors, voilà. Mais pour tous ces goûts, comme pour d'autres choses, ben, ça diminue avec l'âge. Alors, on perçoit moins certains goûts élémentaires. Par exemple, notre capacité à goûter le salé, l'amer et le sucré va décliner avec l'âge. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire « Ah, mais moi, je préfère, j'aime les aliments plus salés, plus sucrés, plus amers. » Ben, c'est parce qu'on a cette capacité qui diminue avec le temps.
Oh.
Cette capacité de oui.
Donc, faut pas s'affoler, quoi.
Non, faut pas s'affoler, c'est tout à fait normal. Mais faut en prendre conscience et ne pas trop saler et ne pas trop sucrer.
Il faut le savoir aussi, hein, c'est que c'est dû au fait qu'on prend de l'âge que on aime les aliments beaucoup plus sucrés que salés ou bien beaucoup plus salés que sucrés.
C'est possible.
Voilà.
Ça dépend des gens.
Oui, ça dépend des gens. Chacun de nous est unique de toutes les façons.
Bah oui.
Oui.
Alors, savez-vous comment on perçoit les goûts? Ça, c'est une question encore plus difficile que la première.
Je ne vais pas passer toute l'émission là-dessus.
Allez, ah ben non, mais non, parce que non, hein, on n'aura même pas assez de temps.
Voilà.
Alors, pour comprendre, je vous suggère de faire un petit exercice.
Oui.
Alors, vous ne serez pas en mesure de me parler dans les 30 prochaines secondes parce que vous allez tirer la langue. Et vous, ainsi que tous nos auditeurs et auditrices, je vous inviterai à faire la même chose, tirer la langue, qui est quand même assez musculeux, un organe musculeux qui est toujours humide et qui est très mobile.
Oui.
Alors, vous n'avez pas tiré la langue parce que vous me parlez.
Parce que je parle, parce que je te parle
langue,
assez.
Voilà.
D'ailleurs, c'est lui qui nous permet de sentir les goûts salés, sucrés et autres.
Alors, quand vous tirez la langue... Et que vous touchez, vous pouvez y toucher avec votre doigt, si vous avez le doigt bien propre.
Oui. Non, je ne suis pas en train de toucher, c'est parce que j'ai touché ici avant de en studio.
Sinon, ben, la prochaine fois, vous serez devant un miroir, faites-le, tirez la langue, et vous allez voir que la langue, elle est parsemée de petites bosses charnues.
Oui, on la voit devant le miroir, on voit ça d'ailleurs.
C'est ça, oui. Mm-hmm. Alors, mais vous pouvez le sentir avec votre doigt.
Oui.
Et ce sont des excroissances, en fait, qui sont des bosses. Ces excroissances-là, ce sont vos papilles.
Ah, c'est ça, les papilles.
Et ça, c'est ça, les papilles, qui contiennent tout ce qui est nécessaire pour percevoir le goût.
Mmh.
Et dans les papilles, on a ce qu'on appelle des bourgeons gustatifs.
Mmh.
Alors, quand on mange quelque chose ou qu'on boit quelque chose, ben, tout ça va se dissoudre dans notre salive qui entre en contact avec vos bourgeons gustatifs. Et c'est ça qui envoie le signal à votre cerveau que des goûts viennent d'arriver dans votre bouche.
Wow.
Mais sans bouche, pas de papilles, pas de goût.
Pas de langue sans bouche, pas de langue, ça c'est clair.
Ouais.
Wow, c'est intéressant, toujours le lien avec le cerveau.
Ben oui, toujours le lien avec le cerveau, forcément.
Ouais.
Notre grand directeur.
Oui. Oui.
Et dès la naissance, eh bien, il y a un goût qu'on va préférer à tous les autres goûts. Même à un âge où on n'a pratiquement pas d'expérience avec les aliments, sauf le lait maternel ou le lait, d'autres laits. Et puis c'est un phénomène qui se passe peu importe le sexe, la race ou même certains problèmes de malformation du cerveau. Alors, quel est ce goût que nous allons préférer à tout autre goût? C'est un goût qu'on appelle un goût inné. On est avec une préférence pour le goût.
Ah bon?
Oui. Est-ce qu'on est avec une préférence pour le goût salé, croyez-vous?
Oui, parce qu'on mange tout jeune aussi.
Des choses salées, oui.
Oui, des choses salées.
Mais ça, c'est un goût qu'on appelle un goût appris. En fait, le goût que nous préférons à tout autre goût, même sans grande expérience avec les aliments, c'est le goût sucré.
OK.
Alors, nous avons de façon innée un attrait pour le goût sucré. Nous n'apprenons pas à aimer le sucré, nous le savons.
Donc, nous naissons avec l'amour pour du sucré.
C'est ça.
Ah, je comprends pourquoi est-ce que les entreprises, les agroalimentaires, là, nous bombardent de trucs.
Ils mettent du sucre partout.
Oui.
Parce qu'on est en quelque sorte programmé pour aimer le sucré.
Et les agroalimentaires ont su ça depuis fort longtemps. Oui.
Non, tout le monde le sait en fait. Tous les gens qui nous écoutent le savent.
Ah oui, mais c'est, je vous dis, ceux qui nous vendent les produits sucrés, quoi.
Ils le savent. Alors que les autres goûts, comme le goût pour l'amertume ou l'aigre, ben, on les apprend.
C'est ça.
En ce qui concerne le goût salé, les opinions sont encore partagées. Parce que
entre les scientifiques?
Ah oui, les scientifiques. J'assistais à un séminaire virtuel de l'Université de Columbia à New York. Pendant 1h30, on a débattu de la question, et la question n'est pas encore réglée.
Oh.
Alors, ça se peut qu'il y ait une partie de dîner dans notre amour pour le salé, mais ce n'est pas encore résolu.
Oui, ce n'est pas encore résolu.
Non. Et il y a des raisons qui font que on aime d'abord le goût sucré quand on est et qu'on n'aime pas vraiment les goûts amers ou aigres. Et la raison, c'est que on croit que ce serait une façon de nous protéger contre l'amertume de certains poisons.
OK.
Donc, on peut penser que nos ancêtres ont survécu grâce à cette acquisition d'un sens pour distinguer les aliments comestibles et les poisons, parce que les poisons, les plantes toxiques, ont généralement un goût amer.
Ah.
Donc, nos gènes auraient gardé la mémoire de ces goûts amers et auraient transmis l'amour pour le goût sucré. Et nos ancêtres qui ont survécu, ben, ils ont gardé ce gène-là.
Oh, ouais, qui mangeaient beaucoup plus bio. Oui, nos ancêtres, arrière, les fruits...
Oui, c'est ça, ils ne mangeaient pas d'aliments transformés.
Oui.
Ils mangeaient les aliments qui étaient vraiment, vraiment...
En pleine forêt.
Eh oui. Alors, le goût sucré, ben, il est dû naturellement dans les aliments comme les fruits, les légumes, les céréales, à la présence de sucre.
C'est ça.
Eh oui. Oh. Et puis le sucre, ben, c'est important, c'est essentiel pour le fonctionnement du cerveau. Parce que sachez que notre cerveau, il ne représente que 2% de notre poids corporel, mais il requiert 21% d'énergie pour bien fonctionner. En fait, c'est l'organe qui requiert le plus d'énergie pour bien fonctionner.
Mais oui, c'est normal, c'est le chef d'orchestre.
Ah oui, c'est le chef d'orchestre, c'est notre grand chef.
Il nous tient pas. Il nous tient, oui. Quoi, comme on le disait la semaine passée. Il nous tient, ce cerveau-là.
Eh oui, c'est ça. En fait, on est un peu esclave de lui.
Oui, c'est vrai. C'est bien dit, ça, ouais.
Esclave du goût sucré.
Oui. Ouais.
Et le goût sucré, ben, il peut faire toutes sortes de choses. Bon, il fournit de l'énergie, évidemment. Mais il peut nous donner du plaisir. Parce que nos papilles qui envoient des signaux que le goût sucré arrive au cerveau, fait en sorte que ça va activer certains circuits du plaisir.
OK.
Et oui, okay. Et ça a été prouvé scientifiquement. Dans mon labo, j'ai travaillé sur le plaisir et le goût sucré.
C'est comme quand je prends de la crème glacée.
Ah!
Oh, zut! C'est en été seulement, je ne prends pas de la crème glacée en hiver. Je connais des gens qui en prennent en hiver.
Ah, il y a des gens qui sont accros.
Alors, pour les deux dernières minutes qui nous restent, qu'est-ce que tu nous...
Alors, ben, ce que je peux vous dire, c'est que bon, si vous croyez que vous êtes drogué au sucre ou accro au sucré, ben, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de vos gènes.
Oui.
La faute de votre cerveau. Et puis, ben, manger sucré, ben, ça a du bon. C'est bon pour le cerveau. Mais, ça l'aide à bien fonctionner.
Mais il ne faut pas en abuser non plus.
Et sachez que le sucre au petit déjeuner, le matin, à jeun, il va vous procurer un plaisir.
Lequel?
Il va activer les circuits du plaisir. Et sachez aussi que les scientifiques ont montré que sauter le petit déjeuner, c'est pas une bonne idée pour la concentration, le stress, la mémoire.
Alors, tu me rends triste, hein, parce que j'ai l'habitude de sauter le petit déjeuner.
Hein. Ah ben non, il faudrait pas. On pourrait s'en reparler dans une prochaine chronique.
D'accord. Oui, j'ai bien hâte de savoir les conséquences, quoi.
On a prouvé que les gens prennent un petit déjeuner sont de meilleure humeur que ceux qui ne prennent pas le petit déjeuner.
Ah bon? Ouais, j'ai pas encore. Ok, d'accord. On va en parler dans une prochaine chronique.
Tu vas
me remettre sur les rails.
Oui.
Oh, Louise.
Je vous convaincre.
Oh, ouais. Tu vas me remettre sur les rails.
Okay.
Bon, pas toujours. Ça arrive que je saute mon petit déjeuner, j'y vais directement au déjeuner, quoi, je veux dire.
Bon. Ah oui.
Voilà.
Ah, c'est pas la meilleure stratégie.
Ouais.
Je vais essayer de vous convaincre de changer ça petit à petit.
Ok. Merci beaucoup, Louise.
Je vous en prie.
On se retrouve la semaine prochaine avec toujours tes surprises.
Ah ben oui, un thème surprise, comme toujours.
Voilà. Okay. Bonne fin de journée à toi et à bientôt.
À vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Je focus sur l'écorce de nos corps qui s'enternit racine danse dans le ciel diamant à l'aube des éclats les saisons s'entremêlent.
Vient de nous apprendre encore des choses là tout de suite. Moi, je vais vous donner quelques nouvelles des Jeux Olympiques, JO, Tokyo 2020. Il y a des gens qui disent quand même 2021, mais c'est pas grave, c'est 2020 parce que c'est le Tokyo 2020 qui a été reporté en 2021. Tout le monde sait que c'est Tokyo 2020. Encore même quand on dit 2021, on sait que c'est Tokyo 2020. Il y a la Pologne qui vient d'offrir l'asile à l'athlète biélorusse Kristina Szymanowska. Voilà, elle devait être forcée de rentrer chez elle parce que les autorités l'ont forcée à rentrer chez elle en Biélorussie. Et puis, bon, ben, elle a dit non, elle a donné ses raisons. Ils l'ont forcée à faire du 4x400 mètres qu'elle n'a jamais fait. Voilà, elle n'a jamais fait. On ne lui a même pas demandé si elle était capable de le faire parce qu'il y avait athlètes qui étaient manquants ou bien quoi. Et ils ont voulu la forcer à faire du 4 fois 400 mètres. Elle a dit non, mais moi, d'abord, demandez-moi si je peux le faire. C'est pour aller disqualifier complètement l'équipe là-bas. Il n'en est pas question. C'est ce qu'ils appellent critiquer le gouvernement, le staff, l'équipe, la délégation de la Biélorussie a dit elle critique la délégation ou bien le gouvernement de cet État, de son pays d'origine. Elle a dit non, mais c'est une question de principe. Moi, je n'ai jamais fait ce 4 x 400 mètres là. Pourquoi est-ce que vous me le demandez? Vous ne me le demandez même pas, vous me posez ça. Alors comme ça, on dit bon, allez, habille-toi, prends tes affaires, on te met dans l'avion, on te retourne au pays. Elle savait ce qui l'attendait là-bas. Et la Biélorussie, si vous vous rappelez, c'est le pays qui a détourné un avion commercial, passager, pour pouvoir mettre la main sur un jeune influenceur, youtubeur, pour le faire descendre de l'avion. Donc si la jeune fille voulait forcément se rendre dans son pays d'origine, elle savait ce qui l'attendait là-bas. Alors la Pologne lui offre l'asile à son ambassade, lui a donné un visa, comment dirais-je, qu'on appelle visa humanitaire, et la possibilité de continuer sa carrière sportive en Pologne. Tant mieux pour elle, je suis très content pour elle. Parce que tout le monde sait que si elle rentrait, c'était fini, quoi. Voilà, elle n'a pas pris ce risque, elle n'a pas voulu. Et puis il y a le Marocain Soufiane El Bakkali, enfin en or, sur 3000 mètres steeple. Ouais, voilà, un autre encore qui vient tout rappeler là-bas. Et puis il y a deux petites Namibiennes. Voilà. Boma et Masilengi, sensation du 200 mètres. 18 ans, à peine, 18 ans. Et puis, je dis bravo à nos filles du soccer, les Canadiennes. 1-0, face aux États-Unis. Finale contre la Suède, si je ne me trompe pas. Ah, je suis bien content pour elles, ces filles-là. Comme je l'avais dit la dernière fois, Maurice, si elles ont un MAC international ici au stade Saputo, je ne vais pas rater. Je vais aller les voir. J'ai envie de les voir en live, comme en direct quoi, sur le terrain. Je les ai trop vues à la télévision. Ça suffit là, à un moment donné. Alors je lui dis bravo. Il faut qu'elle nous revienne avec la coupe, la médaille d'or. C'est tout ce qu'on demande. On va en musique. On termine cette première partie avec London Drummer, Wild Eyed.
Sun suffocate the atmosphere, but I am safe with you far away from here. Another fire through another open door. This of mine be all that you need. It's mama, trauma, broken nothing. Where another truth on your turned up sleeve. This is
London Drummer Wild Eyed. Alors, un clin d'œil à Douglas qui a décroché la médaille de bronze d'ailleurs aux 100 mètres. Et puis, bon, sa spécialité, les 200 mètres, ça vient. Et le jeune détenteur de la médaille d'or, Marcel Jacobs, médaille d'or. Un inconnu qui est venu nous surprendre d'ailleurs. On s'est dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours comme ça. C'est le sport. C'est ça, les Jeux Olympiques, les JO. Toujours des surprises. Avec les deux Namibiennes de 18 ans, Christine Boma et Béatrice Malengi. Restez à l'écoute. On vous revient juste après la petite pause publicitaire.
Festival avec Fulgence Blas. Thank you.
Et là, on vient d'écouter Cantique de Jean Racine, OPCM. OPCM, c'est quoi? C'est l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes. Voilà, OPCM. On a au bout du fil le jeune, je dis bien jeune, et prodigieux chef. Avec 4 ans, quand j'ai vu, je l'ai vu, je l'ai écouté plusieurs fois. On choisit deux pièces comme ça. 24 ans, directeur artistique. Je me suis dit, il va nous répondre, il est mieux placé pour nous le dire. Voilà, il est mieux placé, il a créé, il a cofondé cette chorale, ce chœur, pas une chorale, ce chœur, depuis 2016, et puis fait son petit bout de chemin. Francis Choignet, qui est directeur artistique de l'orchestre, de l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes. J'aime bien ce titre-là, l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes. Bonjour Francis Choignet.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais bien, merci, et vous?
Très bien, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, pour nous parler de la saison 2021-2022. Et puis, comment on devient chef d'orchestre à 24 ans, tout jeune? Déjà, même avant 24 ans, vous étiez chef, directeur artistique. Comment ça se passe là? C'était votre rêve depuis l'enfance?
Oui, c'est sûr. C'était une nouvelle passion que j'ai découvert quand j'étais au cégep à l'étude à Marianopolis. Et j'avais cofondé l'ensemble avec un ami et j'ai vraiment développé ma passion pour l'art de direction et d'être un chef d'orchestre et un chef de chœur qui en fait les deux pour l'OPCM.
Wow. Quand vous avez dit ça aux parents, à vos parents, papa et maman, comment ils ont réagi? Ils ont dit Francis, c'est quoi ça?
qu'ils étaient surpris. J'avais commencé mon parcours musical en voix classique et en piano.
Oui.
Et aussi en composition. Donc, j'étais un peu mélangé dans ma carrière. J'étais pas encore sûr ce que j'allais faire.
Oui.
Mais quand j'ai commencé la direction, pour moi, c'est quelque chose qui m'a frappé fort et qui m'a passionné beaucoup. Et j'ai dit, c'est vraiment ça que je veux mettre mon énergie dans ma carrière.
Est-ce que vous avez une idole?
Probablement Yannick Nézet-Séguin. Hein.
Ouais. Oh, bravo, à cet âge-là, directeur artistique, ce jeune chef, il a 24 ans maintenant. J'ai écouté plusieurs morceaux d'ailleurs avant de choisir les deux. On a écouté une pièce là maintenant, la Cantique de Jean Racine. On va écouter une pièce un peu plus tard, à la deuxième partie de... On a fait une pause musicale encore. Et puis, comment est-ce que l'idée est venue de créer cet orchestre?
Comme vous savez, il y a déjà beaucoup d'orchestres à Montréal.
Oui.
Mais il n'y a pas beaucoup d'orchestres pour de plus jeunes musiciens qui sont vraiment au début de leur carrière.
Qui sortent de l'école.
C'est ça. C'est comme, il y a l'OSM qui sont des musiciens établis pour des années. Et même l'Orchestre métropolitain, c'est la même chose. Et les musiciens qui sortent des universités, des conservatoires à Montréal, sont très talentueux et il n'y a pas nécessairement beaucoup de travail pour eux.
Oui.
Donc, pour moi, l'OPCM était vraiment une place où ces musiciens peuvent commencer leur carrière.
Oui.
Et dans un environnement très professionnel.
Oui. Ouais. Vous ouvrez la porte à tous ces artistes qui viennent, qui sortent de l'école. On parle bien de la musique classique. Hein.
Oui.
On parle bien de la musique classique. Vous vous adressez, vous acceptez, vous ouvrez les portes à tous ces artistes qui sortent de l'école, qui ne savent pas où aller ou bien qui viennent frapper à votre porte sans aucune discrimination. Comment vous les recrutez? Quand ils viennent vous voir ou bien c'est vous qui allez vers eux?
Oui, nous on fait le recrutement direct. Et il y a des musiciens qui ont fini l'école pour quelques années, mais c'est même ces musiciens qui sont qui jouent depuis longtemps sont pas nécessairement en temps plein comme orchestre, à part les positions qui sont dans l'OM et l'OSM. Tous les autres musiciens qui jouent dans les autres orchestres, c'est pas des emplois à temps plein.
Oui.
Sinon, il y a aussi la chorale, qui est un chorale bénévole de jeunes choristes de 18 ans à autour de 35 ans. Et c'est pour nous, c'est encore l'aspect de mettre en vedette des jeunes voix. sur la scène musicale.
C'est la scène musicale classique d'ailleurs. Voilà, donc, vous parlez de ces 70 jeunes choristes bénévoles 18-35 ans qui présentent 3 concerts par année, accompagnés d'un orchestre formé de jeunes musiciens professionnels. Waouh, bravo et merci à vous et à votre équipe, bien sûr, ça il faut le dire. Et puis, oui. Voilà, vous n'êtes pas seulement directeur artistique de l'orchestre philharmonique et chœur des mélomanes, vous êtes aussi chef d'orchestre, chef principal de l'orchestre philharmonique et chef du chœur Fernand Lindsay pour le festival de la Naudière. Et vous collaborez avec des chefs de renom tels que Steven Leighton, Colette Trinity et Corrado Rovari, si je prononce mal, corrigez-moi, Opéra de Philadelphie. Et vous avez été aussi assistant en 2020-2021, assistant du directeur musical Alexandre Achelet au sein de l'Orchestre du Centre National des Arts du Canada. Waouh, quel parcours! À cet âge-là, déjà! Francis! Ouais. Comment on se sent quand on porte plusieurs chapeaux comme ça à 24 ans?
C'est sûr que ces dernières années étaient très actives pour moi. Je crois que j'ai été très chanceux d'avoir les opportunités présentés j'étais chef de chœur pour des productions avec André Bocelli quand il a fait sa tournée à Montréal.
En plus, vous avez côtoyé un grand André Bocelli, vous l'avez côtoyé.
Oui. Ouais. Donc, j'ai été en charge de préparer la chorale en fait de l'OPCM pour ce concert. Donc, c'est vraiment, on a vraiment commencé à développer une réputation de qualité.
Oui.
Parce que ces grands artistes, quand ils viennent à Montréal, ils cherchent une chorale.
Oui.
Et ils viennent nous recruter pour ce genre de spectacle-là.
Wow. Alors, avant de continuer, avant de passer à une autre pièce musicale, rapidement, je vais rappeler que vous avez fait votre maîtrise à McGill.
À l'université McGill, oui.
Oui. Wow. Bravo. On va écouter une autre pièce. On va écouter une autre pièce et puis avant de continuer la conversation avec vous, c'est Clear Midnight de l'OPCM.
Thank you.
c'est l'OPCM, OPCM, Clear Midnight, c'est l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes, dirigé par Francis Chouanière, qui est toujours avec nous. Francis?
Bonjour. Cette pièce est une composition
que
j'ai écrite pour le chœur Schulich Singers à McGill.
Oui. OK.
Et interprété par McGill.
Interprété par McGill. OK, d'accord. OK. Alors, on va parler de la saison 2021-2022. Avec, avec des grands classiques. Hein. Quand j'ai vu la programmation, je me suis dit, ouh, comment Francis a pu mettre la main sur ces grosses têtes-là comme ça? En commençant par. Oui, Alain Lefebvre qui va faire revivre le Concerto du Québec d'André Mathieu. Parlez-nous un peu de ça.
Si on commence avec la saison complète, chaque concert pour moi est unique. On passe au début avec le Gloria de Vivaldi et des airs baroques d'Handel qui met en vedette la soprano Dominique Labelle.
Oui.
On commence avec cette programmation qui met vraiment en vedette la chorale aussi, et la pureté des voix.
Là, c'est bientôt, ça. C'est en octobre, là, le 23 octobre déjà, un samedi.
Exact.
Oui, puis le dimanche 24, au Palais Montcalm de Québec.
Oui. Et après, le deuxième concert de la saison avec Alain Lefebvre, qui met en vedette le concerto de André Mathieu. Pour moi, cette programmation était très importante parce que ce concerto est en fait une pièce que j'ai appris quand j'étais au cégep.
Oui.
J'avais appris la version piano
du
Concerto Québec.
Oui.
Donc, c'est une pièce qui est très spéciale pour moi, très touchante.
Wow.
Et donc, d'entendre Alain Lefebvre, qui était la personne qui a fait revivre les œuvres d'André Mathieu, d'avoir l'opportunité de collaborer avec lui, ça sera vraiment une expérience unique.
Oh, génial. C'est ce que cette soirée sera sur le samedi 2 avril 2022, ce qu'on appelle la soirée romantique émouvante, Concerto de Québec. Waouh! Et puis du Nouveau Monde. C'est aussi, on va parler aussi de la symphonie du Nouveau Monde d'Anthony Dvorak. Ouais. Francis, ouais. Et le samedi 20. Oui, parlez-nous Oui, vas-y. Allez-y.
OK. La saison se complète après avec. Deux grandes œuvres rythmiques, le Carmina Burana, qui c'est un incontournable que tout le monde connaît. Ça fait des présences dans des films et tout ça.
Oui.
Et bien sûr, le Oiseau de feu de Stravinsky.
Oui, Oiseau de feu d'Igor Stravinsky. C'est cette pièce orchestrale pilote du début du 20e siècle, d'ailleurs.
Oui, les deux qui viennent du début du 20e siècle.
Du 20e siècle. C'est une œuvre qui s'inspire d'ailleurs de plusieurs contes russes, notamment de leur aspect merveilleux. Waouh! Ouais. Et puis, pas moins de. Quand je vois la description comme ça, pas moins de 150 choristes et musiciens sont rassemblés sur scène pour ce samedi 28 mai 2022. Là. Mais, voilà, on se dit, mais comment ils ont réagi, ces grosses têtes-là, quand vous les avez approchées, Francis? Comment elles ont réagi?
Comme Alain Lefebvre, Alain Lefebvre était très supportif pour les jeunes. Il voit que c'est important de continuer à soutenir la relève. C'est pas juste l'OSM et l'OM. Si on veut une future pour la musique, il faut supporter ces jeunes musiciens. Et donc, je crois que c'est cette passion, cette rigueur qu'il a appréciée.
Oui, la relève. Voilà, relève. Comment est-ce que vos amis, vos promotionnaires, ceux qui ont fait l'école avec vous, qui ont eu la formation, comment ils vous voient? Ils vous taquinent ou bien ils sont contents pour vous?
Je crois qu'ils sont contents pour nous.
Allez-y, laissez-vous aller. Allez-y.
je crois avec tous les musiciens avec qui on travaille sont très, très excités par le projet. De voir ces grands classiques avec dans des salles de renom à grand déploiement. Donc c'est des projets qui sont excitants pour les musiciens et les choristes de se réunir dans ce contexte.
Oui, dans ce contexte. Où Francis Chouanière se voit dans 10 ans?
C'est une question. C'est très difficile à répondre. Est-ce que je serai encore à Québec?
Oui.
C'est possible. Je crois que même l'OPCM a un grand futur. On commence graduellement à s'établir fortement sur la scène montréalaise.
Oui.
Il y a que quelques années, on faisait seulement des concerts dans des églises.
Oui.
Mais maintenant, on est capable d'offrir une série de 3 spectacles à la Maison symphonique et notre première tournée à Québec au Palais Montcalm. Donc, les choses grossissent quand même rapidement pour
c'est
une petite
organisation. C'est pourquoi j'ai posé cette question-là. Je voulais savoir comment vous voyez l'évolution de l'orchestre que vous dirigez, effectivement. Est-ce qu'à Montréal, on a quelque chose là prochainement, là bientôt, là, pour que je puisse me déplacer là, en dehors de... ouais.
La première, ça sera le Vivaldi Gloria le 23 octobre. Ça sera la première concert que vous pourriez assister.
Oui, ça, je ne vais pas rater ça. J'aimerais bien vous voir en œuvre. Hein. Bon, ouais, Gloria de Vivaldi transmet. Voilà, ça, c'est vraiment ce que ça. Du 9h30 et puis le dimanche 24 aussi à 14h au Palais Montcalm de Québec. Ça, c'est Gloria de Vivaldi. Ne ratez pas les amoureux de musique classique. Ou bien ceux qui aimeraient découvrir la musique classique, comme moi aussi d'ailleurs, je prends goût au fur et à mesure que je reçois les différents directeurs artistiques ici, là, ce qu'on écoute, là, ça vient me chercher. Et puis, voilà, la clôture. Les billets, comment les billets, ça se c'est à la Place des Arts, bien sûr. Les billets sont disponibles là-bas, allez-y. Ouais, puis pour le Palais Montcalm, bien sûr, c'est pour le spectacle Gloria de Vivaldi. Allez-y sur le site ou bien appelez à le numéro de téléphone qui est le 418 d'ailleurs 641-6040 ou bien pour la Place des Arts, c'est Gloria de Vivaldi, Concerto de Québec, Carmine aussi. Place des Arts, comme d'habitude, ça se passe. Alors, quel est le message, la dernière minute qui nous reste, le message que vous avez à lancer aux jeunes qui nous écoutent actuellement, qui sont à l'école, qui font de la musique classique, quel est le dernier message que vous avez à leur lancer, Francis?
La musique classique, c'est pour tout le monde. Je crois qu'il y a quelque chose dans la programmation qui peut toucher tous les âges. Donc, j'invite tous les mélomanes et les jeunes qui seraient intéressés à découvrir plus c'est quoi la musique classique.
Oui.
C'est des jeunes musiciens, c'est des jeunes choristes sur scène, c'est des musiciens comme nous, comme vous.
Oui.
Donc, je vous invite à nous écouter sur scène.
Oui. Merci beaucoup, Francis Chouanière, directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes. De toutes les façons, comme la programmation, je l'ai déjà, je vais en reparler de temps en temps, vous faire un clin d'œil afin que les gens puissent se déplacer et aller vous voir, vous et les musiciens, sur scène. Merci à vous, bravo et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Au revoir.
Confier ma peine au peuple des fontaines pour qu'un jour tu reviennes te pendre à mon bras. Dimanche et semaine ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui n'en finissent pas. Ces instants trop courts, le Rhône ou la Seine, Rimbaud, Verlaine, rien ne m'en consolera. Prince et souveraine, simple comédienne, comme des dizaines d'amant maladroit. On gravait les mêmes stupides rengaines, les mêmes soupirs aux mêmes endroits. Des rues où je traîne instants trop courts, les
seuls qui comprennent, qui sachent où ça mène. Fontaine, dites-moi. Vous qui en avez tant écouté, vous qui ne sauriez pas mentir, est-ce qu'elles savent pardonner ces belles pour qui l'on respire? Les avez-vous vues s'approcher, pencher sur vos reflets saphirs, dire qu'on peut tout recommencer, chercher bien dans vos souvenirs. Confier ma peine au peuple des fontaines, pour qu'un jour me revienne le bruit de tes pas. Je donnerai tout Göttingen, toutes les Suzanne de Cohen, pour ce jour béni. De Cohen pour ce jour béni où tu me reviendras.
Francis Cabrel, Peuple des Fontaines. Terminer en beauté comme ça avec lui. Merci à notre chroniqueur de nutrition, Louise Thibault, qui nous a fait découvrir, bien sûr, voilà ce que la bouche peut nous procurer. Et puis merci à notre jeune, talentueux directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes, OPCM, Francis Chouanière. Merci à toi, Maurice. On dit merci aussi à nos auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission estivale. On se retrouve demain. Et puis bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit ciao. Baba, 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 baba